little girl lost her doll on the muddy road. She came from behind and pulled at my arm. I said, I'm sorry, I have not seen it. She said, please call 911. I said, little one, it is a doll. She said, it is her only friend. And so I dialed 911. They said, hello, what is the problem? I said, I'm a little concerned, a little doll has gone. They hung up the phone and told me to tell the girl to buy another one. Thousands of tears came sprawling out of her cupid eyes. We were both just there, standing there, wet from the rain in Coventry. I had just finished digesting dinner in a Thai restaurant. I was there on my own, comfort eating. I knew I had dinner saved for me at home. I said, okay, well, we will search the streets until you find the doll. All through this night, no sign of this doll. We even went by the ring roads in case it fell out the window.
On est le 30 juin et on vous est à Chérie, j'arrive. C'est Erika Hagen-Veilleux au micro aujourd'hui. Je suis en remplacement à Andréane Desmeules qui est au Saguenay à la noce en train de festivaler. Vous allez pouvoir l'entendre la semaine prochaine faire le retour sur son week-end. Aujourd'hui, on a une émission bien spéciale pour vous, un récapitulatif en entrevue de notre fin de semaine à Carleton-sur-Mer au Bleu Bleu. Ça va être une émission chargée en contenu. On a Lauren Spear, alias Lauren, qui va nous parler de son projet. On a Totalement Sublime et Jerusalem in My Heart aussi qu'on a eu la chance de passer en entrevue en fin de semaine. Et on va terminer ça en beauté avec une chronique d'Alex Tremblay-Lamarche qui va venir nous parler de justice, de droits des femmes et des masculinités dans les remous du renversement de Roe vs. Wade, qui est une nouvelle assez explosive du côté américain. Vous avez sûrement entendu parler de ça cette semaine. Donc, restez avec nous pour Chérie, j'arrive. Je suis accompagnée aujourd'hui à la mise en onde de Gabriel Tremblay.
Bonsoir!
Puis sinon, on va avoir en fait en studio, mais pas vraiment réellement en studio avec nous, les artistes que je viens de nommer qui nous ont donné la chance de leur parler en fin de semaine. En fait, c'était vraiment des entrevues super, super stimulantes, vraiment riches, à nul autre que Carleton-sur-Mer avec un paysage assez paradisiaque. Donc, on va commencer ça avec Lauren, de son nom Lauren Spear. Si vous la connaissez pas, c'est une artiste folk qui vient de Colombie-Britannique et qui est installée à Montréal depuis un petit moment. Elle a sorti son premier album Leftovers en 2021, qu'elle n'a pas eu la chance de tourner tant que ça pour une raison qu'on connaît, la pandémie de la COVID-19, yes sir. Mais elle revenait tout juste d'Europe. Elle faisait un petit pit stop slash détour à Carleton-sur-Mer avant de se lancer dans une tournée canadienne et états-unienne pour la première fois. Et c'était un réel plaisir de pouvoir s'entretenir avec elle. C'est quelqu'un qui a une profondeur vraiment désarmante, d'une timidité charismatique, je dirais. Puis elle nous a offert un magnifique spectacle à la cabane à Eudor, qui était le site le plus pittoresque de Bleu Bleu. La cabane à Eudor qu'on a mentionné un petit peu en ondes mardi quand on a fait notre recap et de nos coups de cœur de la fin de semaine, qui est une ancienne cabane de pêcheurs. Donc, le lieu idéal pour écouter du bon folk. Avant de se lancer dans l'entrevue de Lauren, on va écouter une de ses pièces, Diane, une chanson qu'elle a écrite pour sa mère, qui était personnellement mon coup de cœur de son spectacle. Le refrain est absolument magnifique, tant lyriquement que musicalement. On va pouvoir l'entendre et ensuite on va tout de suite aller écouter ma conversation avec elle qui a eu lieu dans le backstore de la cabane à Heure d'or. Restez avec nous. On écoute Diane de Lauren de son album Leftovers et ensuite on l'entend en entrevue.
Diane holds my hand when I'm screaming out like a child who didn't get her way. And I swear if you follow her stare, see what you seek in the chaser like a ball on a string. I don't have much to give, but what's mine is hers to share. If I could look into the center of the sun, I think I'd see her there. When cherries grew, she knew fruit and the ones to toss away. She knows the way that it goes when the heart holds on to a feeling that is not meant to stay. Our bodies are far apart, but I feel her.
Avec Lauren, qu'on vient d'entendre en spectacle au Shack à Heure d'or. On est au Festival Bleu Bleu à notre troisième journée et je suis avec Lauren, qu'on vient d'entendre en spectacle au Shack à Heure d'or, je crois. Cabane à Heure d'or. Hi Lauren.
Hi, how are you?
I'm good. How are you?
I'm well. I was just saying I was very nervous, but it was such a beautiful environment, so. Happy to play here.
It's you did great.
Thank you.
Yeah, wonderful. It was my first time seeing you perform, and I feel privileged to be able to speak with you after your set, which was really so immersive. Everybody was just in such a calm state with the ocean.
I saw
so close.
There were two young kids that were just like taking a nap. You know, taking it in. I was like, that is what I want. I want everyone to be kind of half asleep, lying down. That's the ideal scenario.
Ideal. Yeah. You said during the set that you are from Bowen Island.
Yes. Yeah.
And so that you've never performed in front of the sea before, but that it kind of feels like home.
Definitely.
To be here.
Yeah.
So how was it for you to kind of, did it feel similar to some settings from back in BC?
Definitely. On the drive up here, we stopped in Rimouski, which reminded me a lot of BC.
Yeah.
And I was just like instantly calmed down by seeing the ocean. So, it was a really beautiful setting for sure.
Wonderful.
And definitely reminded me of home.
Yeah, because you're coming back from a European tour, I think. And so how was that?
It was good. It was pretty intense. I haven't done a tour like that before. So that was brand new for me. And also I played a lot of places that I'd never seen. And I think coming out of, I mean, we're still in the thick of the pandemic, but coming out of it and being able to play shows again was very nerve-wracking. So
in a good way?
Or? In a good way, totally. I felt just like very grateful to be doing it. Mm-hmm. Because I think before the pandemic hit, I think I took shows for granted and I was like, oh, I can just kind of do them anytime, no problem. Be in these spaces with a lot of people, but not having that for 2 years and then being in rooms full of people is very overwhelming in a good way.
Yeah, sure. Yeah. I'm sure people who got to see you too after a long hiatus could appreciate the fact of like hearing this type of music, the folk side of it is just so potent when you're in the space for it. And this was such a perfect spot for your set. It felt like the ideal setting.
If I could only play shows like this, I would.
Yeah. For sure. So folk kind of runs in the family. You inherited this love from your parents who kind of introduced you to it. Yes. And you kind of have always just like been around this type of music.
Definitely.
Do you have a special relationship with your parents? Do you guys play music together? Do you want to maybe invite them on some of your records later on?
Definitely.
Is that in the plan?
Definitely. I played a show in Montreal a couple months back for the release of my record, and my parents came out and my sisters as well, and I brought my dad on stage for the encore. Aww. Which was so fun, and he didn't know it was gonna happen, and he was just ready. He's such a performer. He's got a beautiful voice, he's a songwriter, and so I definitely learned a lot from him. And my mom plays music as well. She plays mandolin primarily, but she's, every time I go home, she's learned a new instrument. Right now it's fiddle, and she was doing stand-up bass at one point. So I'm definitely inspired by her. They're both in their 60s and playing music all the time, and Bowen is like a very musical place, and all their friends play music, so they come together and like jam a lot. So whenever I go back, we play music together.
Did it kind of come naturally to you to, because you just have been like musically inclined by your heritage, I guess, for since you were such a small kid. How did it come about that you wanted to make music a center part of your life? Was it just kind of natural, or was there a moment, a decision? Do you have any memories of being like, this is what I want to do?
It was always something that I did for fun. And when I moved to Montreal, I had multiple bands, but I never thought to like record and put music out. It was always just to play and to play live shows. So I think there was a turning point where I decided to write as a way to share music. And I was like, okay, maybe I'll record this and release it myself and see what happens. And when I did that and people responded, it was really exciting. And it just kind of felt like the beginning of a conversation with different musicians and in like a greater sphere of music to be able to connect with people in that way. And it felt so good that I just kept going, and I'm still going.
It's less wonderful. How is your relationship to, because your material is very intimate, super personal, and just really relational. We can feel it right away hearing your songs. It's just we understand it's coming from a very personal place. And you also have this kind of timeless, you know, old soul that kind of comes across in your compositions. And I was wondering, is it scary to you to put so much of yourself out there for people to see? What's your relationship with that vulnerability?
It is scary. I think because I have written so much just for myself as a way to like move through feelings and understand whatever I'm going through, it felt weird to share that with strangers. And it still feels weird every time I perform to be like, oh, these are like very personal stories that I'm just talking about openly. I think I'm trying to like learn to write songs that don't give so much of myself away. And to find a balance between writing a song to write a song and like to play music versus writing like pages of my diary. So just because it's so vulnerable and I'm trying to become a different type of songwriter and not have it be so reactive to like certain things in my life.
Mm-hmm. Because do you feel like that has kind of expiration date in the sense of you process, you write that type of song, and mm-hmm. then eventually maybe with just the natural evolution of a project, you want to start writing differently? Or
totally.
Do you feel like you're maybe at that place where it's just a natural kind of new chapter?
Definitely. I think all the music that I've written thus far has been about like heartbreak and hard times and like songs about moving through hard periods of my life. Therefore, everything is like pretty melancholic. And I love music that is exciting and fun. And mm-hmm. so I'm trying to push myself to write that kind of music mm-hmm. and not just write from a place of pain.
Yeah. Because that can be kind of hard, I imagine, to just have to go there to then create something. It's like, totally. I want to write from joy.
Totally,
well.
Exactly. Yeah. Mm-hmm.
And so, do you have any rituals, anything that helps you to kind of get to that place where you can crack open and write and compose? Is there any like small mundane things that you do that's like, when I have my coffee in the morning mm-hmm, mm-hmm. or when I take a walk when the sun's coming down? I don't know, just coffee, anything that
coffee has helped, I will say. A couple of days ago I was writing a song and I was like, okay, I'm gonna sit down and like see what I have to work with, and I had a coffee and I felt like jazz and I was like, okay, here we go, like let's just write as quickly as we can. I tend to write quite often, mm-hmm. Just as a practice, mm-hmm. Just writing down like lines or ideas or like recording little melodies that I have. So I'm trying to kind of fine tune my songwriting process, because in the past, as I said, it's been like very reactionary. Mm-hmm. But I want to be able to just like write, which I'm doing now.
Mm-hmm.
And it's exciting to be able to just have material and like have an idea and flesh it out as a practice. But mundane things.
I mean, it doesn't have to be just anything that feels like a ritual or something that gets you there.
I definitely have to be alone, like totally alone. And if there's anyone around, I'm too shy. And I live alone now, which is helping.
Get the juices flowing. Mm-hmm.
Yeah. I also like to kind of, if I know that I'm gonna try and write, to pack my day with other things, so mm-hmm. it's not just open time, because I feel like if I have too much time on my hands then I procrastinate and mm-hmm. I start like doing laundry instead.
Yeah.
So yeah, it's like, good to have like an hour dedicated
mm-hmm. yeah
to trying to flesh something out.
Closing is like, it starts now and it finishes mm-hmm, then.
Totally.
And that's the time I have dedicated for it, so I'm focused.
Absolutely, yeah.
About your writing process, did you pick up your guitar right away when you have a text, an idea, or you just have a bunch of text in your notebook and sometime maybe it will be a song?
I do write on guitar. Mm. I'm trying to expand what I write with, so I'm trying to learn piano or just like sing and see what happens. But that has been how it's gone. It's I go to my notebook, I see what I have,
uh-huh.
and then I kind of just start playing and see what comes out of it, and like I try and squeeze a melody out of the guitar and then match it with the idea that I have.
There's like no unique way to do it.
Mm-hmm, yeah, and it's so interesting talking to other musicians and seeing their process, because everyone is so different. And I'm always blown away at everyone's practice, and I learn that I am always learning from other people.
Yeah, and even for one person, it changes mm-hmm. in a lifetime. There's so many different writing styles that happen
totally.
Within like one same musician.
Yeah.
So it's kind of, I guess, reassuring to know that
totally,
there's
yeah.
possibility to just evolve and switch it up, try
for sure.
something else.
I definitely want to always be changing my approach to songwriting because I think that makes it more interesting for me and also the listener to see me trying new things. And it just brings out different tunes.
Mm-hmm. Yeah. Bowen Island is a really beautiful place, mm-hmm. and you're very far from there mm-hmm. now, being based in Montreal.
Yep.
Do you feel like that heritage that you have and that territory is present in your music? Do you have that relationship that just kind of comes through, mm-hmm. or do your songs change from one place to the next if you're writing a song in Montreal or you're writing a song mm-hmm. somewhere else?
I think it does change. If I'm in the city for a long time, then I start writing about like my own life or people's lives, and like I start making remarks on like relationships around me. But I feel like Bowen, that environment just kind of opens you up to the natural environment, and, mm-hmm. it takes me out of my own life and it kind of like forces me to look around and see things that are bigger than my own life. Mm-hmm. So I think that changes things for yeah. sure.
Do you feel like that's something, you said you live alone now mm-hmm. and you need to be alone to write,
yeah.
but do you want to kind of shift your space where you're writing, or do you need it to be a cocoon for it to kind of feel like a routine? I don't know if I'm making myself clear.
No, definitely. I think to finish a song, I need to be alone, at least right now, if I'm writing myself. That feels best. But I also want to start writing with other people mm-hmm. and collaborating. So the space could change. I definitely love writing in beautiful places, mm-hmm. quiet places, because when I'm recording demos right now, you can hear like airplanes like honking yeah. and garbage trucks. And so
it could be appropriate for some types of projects.
Totally. But yeah. But
can be a pain as well.
For sure. Yeah. It's very funny. I'm like always pausing and like waiting for the truck to go by.
Oh no.
And then I'm like, okay, here we go. So yeah, it's nice. It's nice to do demos on Bowen because it's so quiet.
Mm-hmm.
And you just hear like birds in the background. I'm like, okay, no problem.
Mm-hmm. And speaking of collaborations, mm-hmm. you are really inspired by Adrian Lenker and Buck mm-hmm. Meek mm-hmm. and Big Thief. Mm-hmm. You mentioned them as a reference in mm-hmm. writing your album.
Yep.
And you actually got the opportunity to collaborate with Buck Meek.
Mm-hmm.
How was that to kind of meet him? I mean, meet him over mm-hmm. Zoom yeah. or online, but did it feel like a cathartic moment of like, I'm meeting somebody who's really influential in my practice?
Yeah, it was really exciting. Buck's album with Adrian, A-Sides, B-Sides, is really influential. And I love the way they recorded it. It's very stripped down, very intimate. So that was a reference point for me when I was making this record. And so to be able to work with him was crazy. And I haven't met him in real life, which was crazier still. So, but I think it also was really special, because we recorded our cover of Early Morning Rain, a couple of years ago when everyone was locked inside. So it just was really special to be able to connect with somebody from the larger musical community and make something, even though we were in two different countries
mm-hmm.
and recording at different times. It just like made me excited to make music.
Mm-hmm. I think the connection was made through your label, Secretly mm-hmm. Canadian.
Yeah.
How did that happen, being signed on Secretly Canadian? What led to that?
My friend Jasmine Whiteglaze, who's in the band No Joy, has been like my guardian angel. We've worked together for a long time, and she helped me make that connection. Her band is incredible, and when I said like, okay, I'm gonna try and do this for real, she was like, okay, I'll help you, let's make connections here. And So Chris Swanson, who is one of the heads of the Secretly Society, was at M for Montreal, and we met up and had a good chat, and he was interested in working together. So yeah, that was a couple of years ago. And so I was supposed to make my record like March 2020, and everything shut down.
Well, that didn't happen.
Yeah. Yeah. So it took a while to get started, but yeah, I recorded over the last couple of years and put it out while no one was able to tour, and now able to like play these songs for the first time, which is so exciting.
Yeah, you have some shows lined up in Canada and the US, I think.
Yeah.
You're here in Gaspésie. Mm-hmm. I don't know if you've ever performed in these parts before.
No, never.
So, yeah, you have like this really great tour. Mm-hmm. How are you feeling about your upcoming dates? And yeah, what's the summer like for you?
The summer is really exciting. I'm just playing some lovely Canadian festivals like Mariposa and Hillside and Roots and Blues out west, which is great. It's like such a nice way to break up the summer and go to places that I've never been before, like here. And I love folk festivals. I grew up going to them, so it feels really exciting to be on the stage. And then in the fall, I'll go to America and tour America for the first time.
Exciting, nerve-wracking, and all of the above.
Definitely, yeah, it's all new. It's all surreal.
Yeah, well, I'm really happy for you that you're getting to perform these songs for the first time after these 2 years of hiatus, and I won't take up any more of your time. I'm going to let you go jump in the ocean because you mentioned wanting to do that during the show. We're going to do that too.
Good call. It's a perfect day for us.
Yeah, thank you so much taking the time. Yeah, and it was lovely to see you perform.
Thank you so much for listening, and thanks for this interview.
C'était Lorraine qu'on a eu la chance d'avoir en entrevue dimanche, tout de suite après son spectacle qu'on a vu à la cabane à Eudor. Si vous êtes dans le coin de Carleton-sur-Mer, ça vaut le détour. C'est vraiment un beau spot. En fait, Carleton-sur-Mer vaut le détour en général. On a vu tellement de cyclistes là-bas, plein de gens qui étaient là pour profiter de la plage, de la mer, qui était vraiment pas si frette. Je pense que la Gaspésie a une mauvaise réputation avec la chaleur de l'eau. Moi, je pense que les gens, ils sont un petit peu frileux. Il faut y aller. On va continuer notre série d'entrevues avec Jerusalem in My Heart, qui est un projet plus expérimental de Radwan Ghazi Moumne et Erin Weisgerber, qui sont respectivement un musicien et une artiste visuelle, qui s'allient pour ce projet-là dans une démarche immersive de musique et projection vidéo expérimentale qui nous ont vraiment parlé de leur démarche d'une manière assez généreuse. On était super contents de pouvoir les rencontrer, vraiment des soies. Puis ensuite, on a eu la chance de voir leur spectacle tout de suite le soir même de l'entrevue. Donc, après la pause, on va pouvoir jaser avec eux autres. Si vous les connaissez pas, c'est un projet qui existe depuis 2005, qui a eu plusieurs différentes itérations. Erin, d'ailleurs, est dans le projet juste depuis 2019, mais avant d'être un projet d'enregistrement avec plusieurs albums, c'était un projet de performance, surtout in situ. Puis, on a vraiment hâte de vous partager cette entrevue-là qui, pour moi, était vraiment mon coup de cœur en entrevue de toute la fin de semaine et aussi mon spectacle coup de cœur. Donc, un projet à découvrir pour ceux qui s'intéressent à ce genre-là. Donc, restez avec nous, puis on continue ça.
Cet été, les capitales de Québec sont de retour sur les ondes de Chiz 94.3. Tous les matchs à domicile vous seront présentés sur le site web du chiz.ca. De plus, les matchs à domicile du jeudi au samedi vous seront aussi présentés sur les ondes du 94.3 FM. Cet été, Chiz 94.3 et les Capitales forment une équipe gagnante.
Motherfuckers on the side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Fou, fou, fou. Écoute locale avec Cheese 94.3.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi 18h30
au 94.3. Cheese.
Oh yeah, Cheese.
Pour le meilleur beat, Beatnik Show, man. T'as le dit, c'est malade.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
C'est la grande tirée d'été du Pantera.
Moi de mon voisin, on se tape ses nerfs.
La tournée de Québec Redneck Bluegrass Project s'arrête à l'Agora du Vieux-Port de Québec le 30 juin prochain. Voyez également sur scène Groovy Artwork et les pionniers de la musique traditionnelle québécoise, le groupe Le Rêve du Diable. Les billets sont en vente dès maintenant sur lepointdevente.com. Québec Redneck Bluegrass Project, Groovy Artwork et Le Rêve du Diable, le 30 juin prochain à l'Agora du Vieux-Port de Québec.
Mais la mouche t'est mort au sagot de mort.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive en ce 30 juin. On est à Chiz 94.3 et on s'en va tout de suite en entrevue avec Jerusalem in my heart, qu'on a eu la chance de voir à Bleu Bleu samedi passé. On s'entretient avec eux à l'instant. Restez avec nous. Bleu et je suis avec Erin et Radouane de Jerusalem in My Heart qui font leur spectacle tantôt à 11h. Donc, ils ont pu nous réserver un petit 15 minutes de leur temps avant leur soundcheck pour qu'on puisse s'entretenir avec eux. So, thank you guys so much for being here. Thank you for taking the time.
Thank you for having us. pleasure to be in beautiful, beautiful Billy Shadows.
Yeah, I mean, there's worse places to give a show, right?
There are closer places.
Yes, also. So, starting off with Bleu Bleu, what made you guys want to perform here? And is it your first time at the festival?
Okay, embarrassing question. We didn't know the festival, to be honest.
I mean, it's in its early stages, so okay, I think
it's not like a fourth year.
Okay, so okay. You're good.
Two
you're good.
Of those years don't count.
So. Yeah, exactly.
It's 2 years old technically.
Yeah.
No, it was our agent that just threw this out at us a long time ago, mm-hmm. and we were like, "Yeah, why not? I mean, who knows what the future holds? So let's do it." And you know, I was like, "It's a beautiful part of." The world. We actually, I've been on the other side, but not on this side. I've been on the Acadie Nouveau-Brunswick side. Mm-hmm. I've never been on this side. But Erin, you said you kind of were close.
No, I haven't.
No, not
been,
at all. Okay.
I haven't been over to this side either.
I invented that.
I guess I've been up like more by Matan.
Okay,
so
Matan,
like
you were saying,
north,
yeah, Matan,
but not.
Yeah. Anyway, not wow, what a beautiful, wow. I mean, we think like silly Montrealists think the Laurentians are beautiful.
Mm-hmm.
This is so pathetic.
Yeah, this is like next level.
This is like okay, this is what it's gorgeous. It's very like the last couple hours of the drive were just.
Yeah, you just got here, so you stunning. Must be quite tired. But also, how are you feeling about performing after such a kind of big trip coming all the way here and.
Excited, ready?
Yeah.
I think we're used to it. We're used to like long drive days.
We're used to
yeah.
This is a typical. I mean, 10 hours is a bit. That's like the extreme. But yeah, like it was actually kind of nice because we just got back recently from Europe, Eastern Europe, And yeah, the long drives, like, we're just used to it. It's we know how to use that time very efficiently in the car.
Yeah, is it kind of like a prep time to get in the headspace for
sometimes
the show?
It's more just like spending time together, because actually we don't hang out as friends as much as we can. I mean, we just have crazy, crazy, crazy
schedules.
Like, I mean, do you guys live in Montreal?
Quebec City.
Okay, mm-hmm. So like anybody that, like, the hustle in Montreal is like so crazy. So it's just busy, 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 busy. And if you have a family and stuff, it becomes more busy. So we actually never really, it's pretty rare we have to be like, come over, let's have a bottle of wine. We have to really book it.
Or let's book a show so we can see each other.
So, but no, it ends up being like, we just like spent literally like 6 hours just yakking in the car. Just chat, and just talk about work and stuff and politics. And
that sounds lovely.
It was great. And we had a friend, Simon from Montreal, who used to work for Constellation Records.
Okay.
Who works with Safia now, actually, who will... is volunteering at the festival, I believe.
Yeah, she did a DJ set yesterday.
Amazing.
I think so too.
He came up with us, and he's going back with us tomorrow. He's doing the 20-hour drive just to hang.
Oh, just coming up with friends, going to do a show, going to hang out on the beach.
In our age, it's a bit rare that people do that anymore, but yeah. Anyway, yeah, it was a nice drive.
That's lovely. And so for people who might not know Jerusalem in My Heart, or who are just recently discovering the project, it's been going on for quite some time, and it started as a more performance-based visual and sonic exploration, and it became a recording project after a couple years. Mm-hmm. How would you guys describe the project now? How has it evolved, and how would you present it to somebody who's kind of just coming across your work now? Big question.
Three questions.
Wow. So it's an audiovisual project in its live incarnation, at least. Of course, there's like the album side of the project, which is based around Radwan's music.
Mm-hmm.
And then there's the performance, which is really a mix of us sort of communicating together. Radwan's playing a lot of instruments, mm-hmm. including a couple of instruments called bouzouks, one electric and one acoustic. Singing, there's vocals, there's a lot of electronics in the set. You're playing through a lot of pedals, so you're using your instruments in an unusual way often.
Yeah, non-traditional.
And then I'm performing on 4 16mm film projectors, sort of live mixing film loops that I've shot or that I've reworked from, particularly in this show, one other photographer, Tony Elier.
Mm-hmm.
Who's from Beirut and shot footage there. And there's moments where there's really like tight connections where my machine is actually communicating with Radwan's digital audio workstation. And then there's moments where it's more about us sort of listening and watching and communicating that way. Mm-hmm. Are there things that are important for you to add to that?
No, that's very accurate. Yeah, it's just very much like a morphing of the two disciplines to create a sort of deep, deep sensorial performance or experience for audience, which is why tonight, yeah, we requested, because we were told that it was going to be in a hockey arena,
mm-hmm.
a new one for us. That's a first. It's a first. I have to say, it's a first of the project.
Mm-hmm.
But yeah, one of like the conversations and communicated the desire that it would be nice if we were able to make it shrink the space, because the performance happens in complete darkness. There's absolutely no lights.
Yeah.
So, and it's really to have people like really like be immersed in what they're seeing and what they're hearing. So we have all these mattresses over. So like I'm looking forward to a big thing that I think that we try to do is like to occupy a space and make it special and turn it into a sort of an experience. I mean, cinematic. I dislike that word, but it's nice to have people be in the moment and dive deep. Mm-hmm. And usually the shows are very, very focused. It's nonstop. And we actually just, our last tour, the last show of the tour, we did something very unusual, which is playing a festival, an outdoor festival in Switzerland, in Dudingen. And we were quite worried about it because it's just not a festival format project, as you can see. It's really a very finicky thing. We had to have two sound checks in the day. It was really complicated.
Well.
And of course, it's like the volume of people. Yeah. People are there to like, it's like everyone's like fucked on drugs and everyone's like there to party in the woods in the middle of nowhere, Switzerland.
Yeah, it's not your usual setting.
Absolutely not. And we try to avoid those as much as possible.
In the outdoor thing.
Yeah. And we did it, and like, I have to say, I was quite blown away by how insanely quiet the mass of people got. Nice. And because we were like, it's just going to go over people's, like, not heads, of course, it's not about intelligence.
They're not going
like,
to get it.
They're just not going to get, like, it's not the right setting. Mm-hmm. We're not being fair to the audience.
Yeah. Mm-hmm.
But it worked. Credit to the audience. Everybody was like, it's just
and to you guys.
Quiet. Yeah, yeah. I mean, just mean, like, I respect that everybody, like it's so easy to kind of just like have something happening and you're just drinking and chatting with your friends and it's like, you know, thousands of people that becomes very loud, but it was like dead quiet. It was so creepy. It was like so it was creepy
and cool, but
creepy and cool. Yeah, yeah. But we're there on stage and I actually kind of like, I couldn't get into my head. Like, cause I was so like, this is so uncomfortable, so awkward. It's like really, but it was great anyway. But yeah, so it's very much about also finding a space and making it our own and sharing that with an audience, which tonight is typical of what we love, which is that, yeah, like a unique space.
Wonderful. And
I have one.
Yes, cool.
I saw one of your shows in 2019 in Quebec City at New Psychedelic. It was a festival, but...
Oh, the big like rock festival.
Yeah, yeah.
Case in point of where we don't, where we like stick out like a sore thumb.
Yeah.
Remember that?
No, that was with Charles André.
Really? Yeah, it was in April, maybe.
2019?
2019, yeah.
It would have been 2019. Yeah. Probably just before I started.
Oh my
working.
God! Yeah.
Yeah.
Yeah. Yeah. That was a very awkward. That was a very difficult night for me.
Yeah.
Yeah. Yeah. It was really. That was like really like a show for me. That's a bad show. Like it's. Oh. We talk with the manager. To me, it's very difficult to enjoy those kinds of shows because it's more about like high turnover. Everything is, you know, very rapid. It's just all about the party.
It wasn't like a black chamber. And
And there's like band after band after band after band. And it was very, very difficult. Like there's no time for finesse of anything.
Mm-hmm.
And our thing isn't about, it's all about that. It's, mm-hmm. it's like all the elements have to sit right. Otherwise, it falls apart. Mm-hmm. But yeah, it's crazy you were there.
Is the show evolving from like those years?
Right. 100%
different. Yeah.
Yeah, there's like nothing.
Like
no.
Literally nothing from that, yeah. Nothing from that. Aaron and I started working together in 2019, which is why I was confused that you weren't there.
Uh-huh.
And this is like sort of the best version of the project and from my perspective. And it's a very different direction that the project has taken since Aaron like brought in her vision and her input and the co-creation that it is now. It's very different than what you saw.
Yeah, cool. Yeah. And you're working with a lot of people on the albums. Like every song or every track.
Yeah,
maybe.
That was.
Why did you choose this format?
This format came out of the album previous to this one. Mm-hmm. Was done with an Oriental orchestra in Beirut, recorded there, and. All these friends who I assembled who are all like professional traditional music musicians and that album when it was created, there was also the idea to have like sort of an accompanying sister album that would be a very opposite orchestra, like sort of a disjointed composed orchestra, and this is kind of a continuation, even though aesthetically, musically there's no connection. Thematically there is kind of a connection of like to go from one element, one color to another. And that's the idea of that was born. It was from just like the years of collaborating with people and working with people. And it was actually really easy to do something that seems on paper so complicated.
Yeah,
it shockingly was incredibly easy.
Nice. Yeah, because there's so many people.
Yeah, and
on
everybody,
each song.
Yeah, everybody was like, people were like bam, 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 like super, super quick. And was all done remotely except for two collaborations. Somebody from across the bay, somebody who lives in Charlot, who came to Montreal to play some percussion. And his name is Pierre-Guy Blanchard. He's a Canadian, New Brunswick, dear, 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 dear friend. And the other person is Alanis Abumsawin from Montreal, who had to go to her apartment.
Tim Hacker out there.
Tim Hacker, but we didn't do this. Like he just was like his rehearsal studio is literally across the street from my studio. So he just was like, I'll just email you the file. I was like, yeah, you don't need to come over. It's okay.
Speaking of Alanis Abumsawin, I read an interview you did with somebody else a couple of years ago, and you were talking, you know, about how much you respect her work, and I was wondering, because she is also, you know, a filmmaker, a prolific filmmaker, and since you guys work with that medium, I was wondering if there was a desire to collaborate further with her on her more film material, because she lend her voice to one of your songs, which is so beautiful, and I was wondering.
She is
probably very busy.
She's extremely busy. Mm-hmm. Also, you know, how to word this? There's a friendship there that's very real. Mm-hmm. And I mean, even on the album, she sang the song she evokes my children's names. It's like dedicated to my two children. Mm. And she's like very close to them. And, you know, there's a real personal connection there. But also there's like, I shy a bit from maybe, this is me personally, about like maybe if she proposes it, of course I would do it. Mm-hmm. I don't know if that I feel comfortable like,
throwing that invitation out
there. Throwing that invitation out there only out of like, you know, she does her thing, and what she does is so pivotal and important to anybody and everybody that lives on these lands, of course. Mm-hmm. So for me, it's just like that needs to exist on its own. And if I'm invited into that fold, of course I would happily run mm-hmm. to that. But I don't want to feel that like, you know, it's a delicate one, given how important politically her work is.
Yeah.
It feels a bit, I don't want to it ever come across as somewhat of like, you know, taking advantage of that friendship.
I totally understand.
I mean, she would yell at me if she heard me say something. She gets so irritated at like when we performed together, like she wanted to give me her drum to play. And mm-hmm. I was like, it's like this 200-year-old drum. And mm-hmm. I was like, are you out of your mind? There's no way. What if I drop it and break it?
I'm not touching this.
And she was so upset mm-hmm. at me. And I was just like, no, I just like draw the line. Like, I really cannot. Like, please don't put me in this position. Mm-hmm. Like, I'm just some Lebanese guy. Like, what am I going to do with your, like, you know, your Abenaki drum that someone gave you that's 200? Like, who the hell am I to play this thing? It's crazy. Yeah. It's like, it's okay. I'll go to Steve's and rent one. And rent a frame drum and just... Nobody will know the difference live. It's okay.
Oh, what a privilege to work with her, though.
She is amazing. She hasn't even recording. Like, just she was like refused. She was like, if you want to do this, you have to come to my house and record. And we're like, Alanis, there's a pandemic. She's like, fuck the pandemic. I don't give a fuck about the pandemic. Fuck you in the pandemic. Come to my house, or I won't speak to you anymore. And she's like that. She does not give a fuck.
Yeah, she's no bullshit type
she's
of
no
person.
She's no bullshit. She's straight. Yeah. Oh. So it was done in her house.
Mm-hmm. Incredible.
Or a lot of alcohol.
Incredible. And so, Aaron, you are more recently implicated in the project since 2019. And how have you kind of found that this project has had an impact on your work? And, you know, Radwan, you too. How has working together influenced your personal practices as artists who are, you know, obviously very prolific in your own fields? I don't know if you have anything specific to say about that, or if it was just kind of a natural progression, but yeah, I'd love to hear you on that.
Well, it's very different because I hadn't done live performance before.
Mm-hmm.
Like installation and single channel films. Mm-hmm. So it's this kind of thing where you spend a lot of time working by yourself, a lot of time editing, a lot of time in your head,
mm-hmm.
and then you put this thing out in the world and it's sort of like, becomes alien to you. You're just like staring at it, wondering like, did that come out of me?
Yeah.
and you're sort of forced to sit and like look at it. Whereas when you're performing, you're in the middle of it and you're performing with someone, with Radwan. So there's like that energy of the musician you're working with.
Mm-hmm.
But of course the room you're in, the audience, like it's really, really invigorating to be in that kind of situation. It's such a nice change from, I mean, I still love making films, but it's such a nice, exciting way to share work. And I think also when you're making like the kind of generally non-narrative kind of work that I do, more like within, I don't like the term, but experimental cinema,
mm-hmm.
there is really a limited audience for that.
Mm-hmm.
And it's really nice to be able to go beyond the audience who will necessarily, and I think it can be intimidating for some people to come in and see that kind of work.
Mm-hmm.
And I don't want to make intimidating work. I don't like, and it's, so it's nice. I feel like this is a place that can invite people in to see work that they wouldn't necessarily
be in contact with.
Cause they might, you know the albums, have heard tracks, be at a festival mm-hmm. and be curious. And then beyond the experience of what they've maybe heard on the album, they also have this like audiovisual experience.
Yeah, there's like multiple doors into the project, which is such a lovely thing. It's not a, it's a multidimensional kind of movement based material. So mm-hmm. I can imagine that a lot of people would arrive and not quite know what to expect and find that they have a lot of different angles where they can feel connected to the work.
I think. Yeah, we hope, yeah. And I think, too, like, Redwan's a very dynamic person. He's always, like, doing a lot of collaboration, very creative, very productive. And so working with him is, like, it's very motivating in that mm-hmm. way that there's kind of, like, and you also just, you need to, like, be able to take some risks. And like, I'm not very much of a risk taker. Like, I'm in the editing room watching something like mm-hmm. 50 times before I'm like, okay, I think that cut's okay. And then, you know, in live, you just have to be like in the moment and you have to be ready to like put that in front of an audience. And that's a really exciting thing in this world. So, and yeah, just trying things that, you know, if you have more to add.
I do. I think the project is at a place where it's existed for a long time, but it only has arrived, I think, to where it needs to be. Not where it needs to be. For me, it's when I think of what an audience is seeing, it's in this incarnation of it is where, like, it's the closest that I can imagine to it being the correct thing mm-hmm. or the thing that's right. So I know from, like, people who have seen the project many times and over the years and people who've worked with and who really, like, experienced it in all of its different forms that everybody, you know, really takes away from this is like, this is such a, it's really one thing now. And it's very, there's like a comfort blanket part of it for me when we perform together. If Aaron is not close enough to me, if I can't hear Aaron's movements, if I can't like see the certain types of lights that she's emitting for me to like feel like there's like a panic of like, oh, this doesn't work for me. Like, this is really, there's like, so there's, and that, all that tells me is like, there's like such a connection. There's like, just like the two brains are really like connected on a stage. And that's like just very beautiful for me. I really love that. So it's very rewarding. It's mm-hmm. like, feels like, okay, if the project ended tomorrow, I'll feel very happy that everything that from my end that I wanted to, where I wanted, the goal I wanted to get to has been achieved. Wow. So yeah, that's, it's a great feeling.
Yeah, that's lovely to hear. I personally have not seen you perform yet, so hearing all of this, it makes me very, very, I was already excited for the show, but now I'm even more excited to see it.
Arrive tonight. Drunk, it's a lot better when you're
drunk. Yeah.
I guarantee.
Good to know.
You have a couple hours, yeah. Pop a couple of mushrooms, drink a couple of glasses of wine, come, you'll have a good time. Yeah.
So after this last question, unless Gab, you have more, yeah, touch this one, right?
Yeah,
I'll let him.
Yeah. But it can be the last one. Yeah.
Really. Okay. Well, yeah. My question was kind of what is coming up for you guys after, you know, you've been to Europe recently, you just came back, and now you're performing here. Is there anything else you're really excited about? Something you want to share that's coming up for the project, in the near ish future.
Yeah, there is a festival. We're about to go to the. We've been lucky. We've been so lucky. We were like in Europe in March of 2020, like when the bomb dropped on everybody's heads. We were like in the thick of a tour.
Yeah,
and that ended. And I think we were like really one of like the last people out. Like really, we were stuck in Europe for like at an airport for 5 days trying to get home. It was crazy.
That sounds terrible.
And then it was in November of 2020, we were back out. Like, we had the invitation. We were like, is this crazy? Are we going to go, like, right at as everything is still? And we went, and we managed to play 100% of our three-week tour. And as soon as we came back, Omicron hit, and everything shut right back down. We were like, wow, we just robbed the bank twice.
Wow.
And then we've been twice already. Yeah. We go again in 10 days, and then we go again in September, and then again in October. So we're like really lucky. We're really lucky that we've been able to do all this stuff. So all that's exciting, a bit stressful, but exciting. We are going to the UK and to a little tour with an amazing improvised electric bassist called Farida Amadou, who is from Liège in Belgium, and she's doing a tour with us, and that's going to be fun. The anchor of that tour is a festival in Birmingham that's invited me to curate part of the program. So that's really, really, really great. But other than that, like, the record is, even though it came out in like the end of 2021, mm-hmm. there's still like, you know, that whole year and a half touring cycle for it. So we're still just like touring the album.
It's still very fresh.
It's still very fresh. Yeah. It's still very, very fresh. And so there's that leading up all the way into like next summer, basically, like things lined up for us to travel and present the show. Or variations on the show. There's also the very difficult to realize limited edition version of the album which is a box set, which is a company. It's the record that it is, comes in a 50 edition limited box set with a film, with a 60 millimeter film that Aaron made. And there is an element of one of the tracks that's only on the optical soundtrack of the film. So basically, to experience the whole thing, you have to project the film, play the audio off the film, play the record, and experience the whole thing. And the box set comes with a very limited edition accordion chapbook by Alexi Perry Cox, who's also, her, some of her text is on the record. It's like this elaborate box set idea that we've had, but it's proving all the elements about the box are done. And due to COVID, it seems, we are unable to source the parts for the box.
The album with so many people wasn't complicated to make, but making this box.
There's the easy way, the hard way, and the truesome hard way, yes. No, it's, I mean, it's like in pre-sale, half of them are already sold. Like, it's gone. So the label had to stop selling them because they're like, they wanted to have some copies for sale for when it comes out. So people who didn't want to pre-order this $250 object. Yeah, which is weird because at first we were like, is this a terrible idea? Is this gonna, is this everyone going to be like, who the hell do you think you are? But yeah, it's anyway, it's that I'm very excited about once it comes out, but I'm hoping by the end of the summer this damn thing will be, will exist.
Fingers crossed.
Fingers crossed.
Yeah, it's an exciting thing. Yeah. A lot of exciting stuff coming up.
Yeah. if we had like one wish to give you for tonight, what would it be?
One wish for tonight. Aaron.
Mine was just going to be so boring. It's just going to be like a really, really smooth set that the audience is really into. Like that's it.
No, that's, I mean, mine, not far from mine. Mine would just be just like that. I hope everybody walks away a bit richer than they walked in. Yeah. Everybody walks out a bit richer and more enriched by that they experience something positive, negative, they like, they don't like, whatever it is. Nothing upsets me more than stuff that doesn't move you. It can move you in a bad way or in a good way, but if it doesn't move you, then
shock you.
It doesn't have to shock you, it just has to move, there has to be some sort of engagement.
In a positive way.
Like nothing lamer than when you go experience art and it just, you're just like indifferent. Indifference is if like I'll shoot myself the day I arrive somewhere and it's like just indifferent work. It just doesn't matter. And yeah, I think we put so much effort into things to make it matter. And even when it matters in the negative way, it still matters because that means there's engagement. There's emotional engagement. So I hope for that, I think.
Yeah, thank you so much. We won't take up more of your time. Thank you for your generous
answers.
Oh my God,
thank you so much.
It was so lovely chatting with you. Yeah, and we'll be there tonight, and we're very much looking forward to it. So, merde.
Merci.
Merde, and have a good sound check.
Thank you so much.
On a le bonheur de recevoir Fanny Rose.
Vous êtes toujours sur les ondes de 94.3 avec Chérie J'arrive. On vient tout juste d'entendre Jerusalem in My Heart qui était en spectacle à Bleu Bleu en fin de semaine passée. Et on continue notre série d'entrevues avec Totalement Sublime qui est un groupe de musique aussi électro-ambiant expérimental. Puis on va aller entendre une de leurs pièces de leur dernier album éponyme est Totalement Sublime avant d'aller en pause publicitaire. La pièce s'appelle I Don't Know. Donc nous allons écouter ça à l'instant. Restez avec nous.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Cheese 94.3.
La semaine prochaine c'est good. Désolé j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche, ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Vous écoutez toujours Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. On s'en va tout de suite écouter notre entrevue avec Totalement Sublime qu'on a eu la chance d'avoir avec nous dimanche au Festival Bleu Bleu à Carleton-sur-Mer. Donc sans plus attendre, voici Totalement Sublime.
Salut!
Merci d'être là avec nous autres.
Ben, ça fait plaisir.
Au Festival Bleu Bleu. En cette troisième journée du festival, vous êtes en train de vous préparer tranquillement, pas vite, à votre set de tantôt.
Ouais, ben on essaie de se préparer. Dans le fond, le concept de ce spectacle-là, c'est beaucoup d'improvisation. Fait qu'on est justement, on essaie de se préparer à voir qu'est-ce qu'on va faire ce soir. On est encore bien dans le néant, mais ça fait un petit peu partie du projet. Là. Fait qu'on sait pas trop. On a quelques petits trucs de préparer chacun de notre côté. Puis on va essayer d'assembler ça ensemble tantôt sur place, puis voir dans quelle direction on va aller. Je pense que ça va être le fun.
Cool. Gab, t'as une question.
Ouais. Pourquoi vous avez choisi Bleu Bleu, entre autres, dans votre saison de festival? Pourquoi vous avez décidé de venir ici, à Carleton?
Ben, c'est sûr que on voulait pas faire full de spectacle parce qu'on est en composition, justement. Mm. Puis on fait ce show-là, on l'a fait deux fois au WIP à Montréal. C'était concept-là de trou OAEUI. Puis on avait le goût de... Ouais, ben... True OAEUI. Quelque chose de même. Puis ben, c'est ça, on l'avait fait à Montréal, puis on s'était dit que ça pourrait être cool d'en profiter pour comme tourner ce concept-là un petit peu, tu sais, que ça soit une résidence qui bouge finalement, puis qui n'est en fond plus une résidence. C'est ça. Puis, je sais pas, ce festival-là, tu sais, à Carleton, c'est comme le parfait setup aussi. On aime ça avoir des trucs quand même ambiance, avec des sons naturels. Puis, tu sais, comme c'est très contemplatif. Fait que dans notre tête, on dirait que ça fit aussi avec le mood des gens qui sont ici, qui font la fête, mais qui prennent quand même aussi un petit moment pour comme se poser, puis comme regarder un peu le paysage. Puis, c'est un petit peu ça, totalement sublime. Fait que ça fitait juste pas trop bien.
Vous avez évidemment d'autres projets. Marc-Antoine, tu joues avec Sauge Sauvage. Ellie, tu as ton projet solo. Tu joues avec Foreign Diplomats avant. Est-ce que vous avez attendu que vos autres projets, peut-être plus principaux, atteignent un certain stade de, pas de notoriété, mais dans le sens où vous avez fait plein d'albums? Est-ce que vous attendez un stade avant de vous lancer dans d'autres projets connexes comme Totalement Sublime?
Non, je pense que Totalement Sublime est vraiment... Tu sais, le projet, c'est juste qu'est-ce qu'on ferait pas avec nos autres projets. Je peux pas dire plus mainstream, mais tu sais, qui sont plus comme faire la run de show classique. Puis, tu sais, Totalement Sublime, on a juste du fun à expérimenter puis à essayer des affaires. Fait que sans attendre que nos autres affaires baissent ou qu'on ait plus de temps, c'est juste de quand on peut, on s'envoie les affaires ou on se voit. Ou, fait que. Un peu tout le temps.
Puis il n'y a pas de conflit d'horaire.
Ouais, oui,
tout le temps.
Toujours. Mais oui.
Je me disais, ça,
mais oui. Ouais, c'est ça. On s'arrange.
Ouais, cool. Ouais, ben, je vais la poser plus tard.
Oui. Mais en parlant de ce processus-là, qui est comme un, c'est clairement un projet bonbon pour vous autres, là, ce projet-là, l'exploration en masse, vous avez pris le temps de faire votre premier album qui est sorti en 2020, ça vous a pris comme 2 ans à comme, monter le projet tranquillement, pas vite. Je me demandais, dans ce contexte-là, ça ressemble à quoi votre processus de composition? Est-ce que vous êtes ensemble tout le long? Est-ce que vous lancez des affaires, des pistes? Et, sachant que c'est comme un projet qui est patient, tu sais, puis un projet qui se veut sans stress, comment vous abordez la composition?
Ben là, en ce moment, le concept, c'est vraiment, tu sais, à part nos sets qu'on fait en ce moment d'improvisation, on n'a rien fait d'autre de création.
Okay.
Fait qu'on est vraiment juste en train de se monter une banque de, tu sais, de questions d'accords, de sons, d'essais-erreurs, puis tout en live. Fait qu'il y a ça un peu qui est cool, c'est qu'on, tu sais, on s'écoute un peu tout le temps, puis on a rajouté Thomas dans le setup. Fait que, tu sais, on le grossit un peu, puis éventuellement, là, il va falloir qu'on s'assoie ensemble pour vrai, puis qu'on fasse le ménage dans le 7 heures de musique qu'on va avoir, là, parce que c'est quand même des longs sets qu'on fait. Mais, tu sais, à part ça, en ce moment, il n'y a rien eu d'autre de création.
Ça varie tout le temps un petit peu aussi selon. Le premier album, ça a été fait vraiment complètement ensemble. Après, on a composé une couple de tunes pendant la pandémie, à distance, un peu comme. On s'envoyait des tracks, mais sans se rencontrer parce qu'on pouvait pas. Je pense qu'il est totalement sublime. C'est un peu notre projet aussi où ce qu'on essaie justement d'expérimenter musicalement, mais aussi dans la manière de créer. T'sais. Fait qu'à chaque fois, ben, on essaie de voir est-ce qu'il y a un nouveau moyen de comme faire quelque chose. C'est la première fois qu'on compose devant les gens. T'sais. Puis c'est vraiment un autre processus complètement différent, mais ça fait. À chaque fois, ben, on sort puis on a une heure de matériel qu'on n'avait pas avant de rentrer. Mm-hmm. Fait que,
vous êtes constamment. Ouais, un show, c'est comme finalement une résidence à chaque fois.
Exact.
Il y a quelque chose qui doit être un petit peu vulnérabilisant là-dedans aussi. T'sais, là, vous dites, vous construisez un petit peu un langage au fur et à mesure. Vous avez des repères, mais en même temps, vous ne savez pas trop dans quoi vous vous embarquez. C'est quoi votre rapport avec l'improvisation? Est-ce que vous êtes du genre « et ça me stresse vraiment » ou justement c'est libérateur de faire « advienne que pourra » puis on va juste avoir du fun? Ou un peu des deux?
Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Moi, je sais pas.
Ben, je trouve que ça a changé un peu en cours de route. Le premier, j'étais vraiment plus stressé. Puis on avait un peu de préparation, mais vraiment pas grand-chose. Puis ça s'est tellement bien passé. Puis à un moment donné, on est allé... je sais pas, il y a une fois où on était censé faire un spectacle, mais un spectacle plus de chansons avec Thomas en Abitibi.
Mm-hmm.
Finalement, Thomas, il n'est pas fini parce qu'il était malade de la fameuse maladie.
Puis, qu'on ne nommera pas Voldemort.
Fait que finalement, on a décidé de faire quand même le spectacle puis d'improviser. Puis on n'avait rien de préparé. Puis ça s'est bien passé aussi. Fait qu'on dirait que plus qu'on en fait, plus que... Justement, je pense que c'est libérateur. On dirait qu'on est rendu plus en paix avec le fait que on finit tout le temps par se placer parce qu'on commence à connaître aussi nos patterns, puis comment qu'on travaille, puis comment que les autres improvisent. Puis ça devient juste... Moi, je trouve ça libérateur parce qu'on dirait que justement, je sais que ça va tout le temps comme turn out une belle surprise.
Mm. Ouais, pour vrai, c'est... À date, ça... je pense qu'il y a aussi un... Autant c'est libérateur, il y a comme une... on reste un peu dans la prudence parce que c'est devant public, tu sais. Mm. Fait que c'est pas juste... Tu sais, les sets qu'on s'est fait juste nous deux dans le local sont vraiment plus n'importe quoi
qu'un set devant public, c'est ça. Pression
ouais. Fait qu'il y a comme un côté super libérateur, super comme que maintenant on n'a plus de stress, mais qu'on reste quand même un peu droit dans notre expérimentation pour pas non plus que ce soit... Ben, que ça reste weird, mais que ce soit pas weird, pas le fun.
C'est pas n'importe quoi.
Non, c'est
totalement
ça,
sublime. Vise le weird fun et non le weird, pas le fun.
Exact.
Bon, à savoir.
C'est
pour tous ceux qui vont venir voir votre show tantôt. vous êtes fan de musique japonaise des années 80. En tout cas, vous nommez ça comme étant une de vos influences, des sonorités qui vous parlent puis qui a sa place dans votre projet. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sonorités-là qui particulièrement sont riches pour vous, puis pourquoi vous avez voulu nommer ça comme influence principale?
Ben, je pense que quand on a commencé le premier album, ben, pas quand on a... Ouais. Dans les débuts, assez, on s'envoyait beaucoup de chansons parce qu'on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire vraiment. Tu sais, on faisait juste s'amuser les deux à faire des tracks. Puis à ce moment-là, on écoutait beaucoup, c'est ça, de Maria, de Yasuaki Shimizu, Ryuichi Sakamoto... Puis on avait beaucoup de références de ça pour les sons de synthétiseur, pour tout... Il y a comme de quoi qui est comme... c'est pop, mais c'est expérimental. C'est des chansons, mais il y a tout le temps une prod un peu weird, puis une affaire qui était comme de où ça se... Weird le fun.
Weird le fun.
Fait qu'il y a tout le temps ce genre de truc-là entre les deux qu'on aime beaucoup. Puis c'est aussi dans les mélodies très pentatoniques, c'est quelque chose que... En tout cas, moi, particulièrement, tu sais, il y a une formation un petit peu plus... académique aussi en musique, là. Mais moi je suis souvent comme je tape ces notes noires, puis ça on dirait qu'il y a comme une similitude aussi dans ces mélodies là. Mais c'est sûr que là aussi ça a changé aussi. On aime encore beaucoup cette musique là, mais on va aller chercher quand même dans plein de trucs différents, des trucs allemands, des trucs américains, des trucs de partout là.
Ouais, je pense que là où est-ce qu'on est, c'est un petit peu moins dans exactement ce qu'on s'envoyait quand on faisait le premier album, qui était, tu sais, ça, beaucoup plus ambiant pop japonaise. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup plus que, tu sais, nous, c'est juste un mini peu qu'on écoutait puis qu'on a vraiment accroché, là. Mais je pense, là, ce qu'on est en train de faire avec le show puis avec le deuxième est encore un petit peu, mais comme tu dis, peut-être plus à le côté allemand, américain, genre. Je sais pas trop.
Il y a encore des surprises.
Ouais, pour nous autres aussi.
Ouais, c'est ça. Okay. On garde le suspense. Comment le projet est né, d'ailleurs, entre vous deux, là? C'était quoi la liaison de départ? Ouais.
De Through ou de Totalement Sublime? Du band.
Ouais.
C'est juste nous autres, ça brosse dans un show de Foreign Diplomats puis Show Sauvage. Okay. Ils commencent à se dire comme, hey, on se fait un projet, puis on se fait une fin de semaine au chalet à mon père à juste faire des tunes. C'est vraiment juste ça. Il n'y a pas eu, tu sais. On a juste. On a toujours su qu'on avait pas mal les mêmes goûts. Musicaux, puis que, tu sais, je voudrais avec toute la gang de Diplovage, on a toujours eu plein de fun ensemble, fait comme. C'était comme sûr que ça allait arriver, tu sais. Mm-hmm. Puis ça a super bien marché.
Au départ, c'était plus on va aller au chalet jammer juste pour comme le fun de faire ça. Puis finalement, on est sorti, puis on avait comme 3 tunes, à peu près. Puis on était comme, ah, ça marche dans le fond, il y a comme de quoi qui se passe. On pourrait sortir un petit EP, puis là, après, on s'est rencontrés, puis on avait 3 autres tunes, puis on est comme, rendu là, on va faire un album. Le monde n'attend pas de EP, ça n'existe pas encore. Fait que ça, on peut juste s'amuser. Fait que finalement, ça a comme pris un petit peu plus de place, de plus en plus.
Puis vous en avez fait un vinyle, finalement.
C'est ça.
Rien de moins. C'est parti d'un chalet pour une grosse galette. Est-ce que c'était comme un rêve que vous caressiez d'avoir un vinyle? Je sais que Chose Sauvage, vous en aviez un aussi, mais...
De planète aussi. Ben ouais, mais on aime tout l'objet aussi. Ouais. Là. On est quand même des geeks de musique. T'sais, on aime la musique en tant que telle, mais on aime aussi tout ce qui vient avec, le concept, le cover art, le setlist, l'ordre, tout. On est quand même très anal. On se parle de trucs, de micro-détails, de comment on va-tu appeler ça un EP, ça, ou un micro-album, ou toutes ces petites affaires-là, on est vraiment là-dedans.
Un maxi.
Exact. La nomenclature. Fait que c'est sûr que le vinyle, c'est comme l'apogée d'un projet. Là, quand tu reçois ta galette, puis tu la vois en gros, puis là, c'est ça. C'est comme, là, ça devient réel.
Ouais. Symboliquement, le projet contenu dans un objet.
Exact.
Puis, là, on parle beaucoup de l'univers sonore, de Totalement Sublime. C'est très... important, tu sais, vous avez des tunes qui sont très immersives au niveau de l'écoute, mais il y a aussi le rapport aux paroles qui est là des fois dans certaines chansons. Est-ce que c'est des paroles que vous écrivez ensemble? C'est quoi l'importance des mots pour vous? Est-ce que c'est juste un appui, une raison de mettre de la voix sur vos explorations sonores? Ouais, c'est quoi votre rapport aux mots et aux textes?
Ben, pour le premier, ce qu'on voulait faire, on les a vraiment tous écrits ensemble. Moi, je pense aussi, c'est la première fois que je travaillais de même, de comme, on partait de soit zéro ou de, mettons, une ou deux phrases qu'un ou l'autre avait écrit, puis on s'assoyait, puis on se parlait, là, on disait qu'est-ce qu'on voulait dire, puis je pense qu'on voulait vraiment, tu sais, nos paroles sont pas narratives du tout, puis c'est pas vraiment personnel non plus, on voulait vraiment juste peindre des tableaux assez... comme,
impressionniste.
Ouais, vraiment. Puis, tu sais, pas beaucoup le jeu, puis c'est plus comme l'extérieur, puis qu'est-ce qu'on voit. Fait que pour le premier, c'était ça, puis le deuxième, autre chose, c'est ça.
À suivre, OK. Vous ne livrez pas les secrets de ça, parce que là, j'allais demander, est-ce que c'est la même direction ou vous ne le savez pas
encore? Ça va être très différent, mais ça, c'est une surprise.
OK. On ne nous en dit pas plus, on alimente le mystère. Non, plus. C'est ça. Puis ben, vous avez un peu touché là-dessus plus tôt en disant que totalement sublime, ça vous permet de faire ce que vous ne faites pas dans d'autres projets qui sont peut-être un petit peu plus rodés pour le chemin qu'on connaît. Là. Mais avec totalement sublime, vous avez comme la belle posture de pouvoir vous insérer autant dans des progs un peu plus expérimentales, justement des résidences de musique électronique, là, vous allez jouer notamment au Mutec en août, mais après vous venez aussi à Bleu Bleu, puis des festivals qui accueillent des artistes qu'on voit dans le circuit des festivals. Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que vous avez une direction que vous souhaitez prendre ou cette ambivalence-là, c'est une richesse pour vous, vous voulez la conserver?
Bien, je pense que c'est intéressant de pouvoir comme, s'insérer dans plusieurs trucs. Après, si on ne veut pas avoir nécessairement le chemin comme classique ou on veut pas faire des spectacles pour faire des spectacles non-stop. On a mieux comme choisir. Je pense que c'est une question, c'est juste le setup. Est-ce que ça va être, est-ce qu'on va avoir du fun? Est-ce que le monde va être au rendez-vous? C'est de trouver aussi ton public. Mm-hmm. Puis je pense qu'on se trouve un peu justement dans les deux publics, autant le monde qui aime les trucs plus expérimentaux que la chanson. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps un peu challengeant de comme faire le choix de comme ça, c'est pas ça. Mm-hmm. Mais je pense que...
Mais c'est correct de rester entre deux chaises aussi.
Ouais, c'est ça. Puis c'est correct aussi d'essayer de pousser. On aime ça aussi pousser un petit peu. Je sais pas que comme ce qu'on fait, on réinvente la musique, là, tu sais. Mais je pense que c'est le fun de pousser un peu la limite aussi, même dans des festivals un peu plus classiques, puis de faire comme, hey, on peut aussi. Ça aussi, ça existe. Puis il y a plein de monde qui le font super bien aussi. Puis je pense que c'est plus autant strictement chanson. Mm-hmm. Oui, il y a des festivals comme ça, mais je pense qu'il y a de la place pour. S'amuser. Là.
Ouais, flouer un petit peu les genres. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus?
Comme tu disais, t'sais, on est un peu dans le milieu. Puis je pense que le fait d'avoir deux. Tu sais, le through, le. Oui. Ou. Non, moi, j'ai plein de misère.
Oh, j'aime ça qu'il y a comme y a un doute.
J'ai un petit doute, là. Ben, tu sais, avoir ça, puis notre vrai show de Retourne qu'on fait, mettons, quand on ouvre pour Show Sauvage, puis tout ça. De pouvoir offrir les deux. Tu sais, quand on a commencé à faire ce set-là d'improvisation puis de composition, nous, on le faisait chez nous au WIP à Montréal, puis on pensait pas l'exporter. Puis finalement, il y a eu plein de monde qui nous ont écrit pour qu'on le fasse ailleurs, tout ça. Puis c'est vraiment le fun. Moi, en tout cas, moi, j'ai du gros fun, plus que j'en ai eu. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de fun dans un band de même, puis c'est juste parce que c'est de la grosse création tout le temps, tu sais. Fait que... C'est nice d'avoir les deux. Tu sais.
Ma question est pour spécifiquement toi, Élie. Vous avez sorti l'album Totalement Sublime, puis pas longtemps après, si je me trompe pas, tu as sorti ton album Panel, solo. Est-ce que c'était voulu, la succession des deux, ou c'était un pur hasard que tes deux...
Non, je pense... J'hésite. Je pense même que mon album Panel était fini avant l'album de Totalement Sublime. Okay. Je pense que ça a juste été un hasard de... Je voulais le sortir le plus vite possible. Finalement, c'est Bon Bonbon. Moi, je voulais le sortir genre en mai. Puis c'est Bon Bonbon qui m'ont dit de le mettre plus tard. Mais c'est comme cette année-là, je pense que j'ai sorti 4 albums là, dans l'année, puis avec différents projets. Fait que je voulais juste un peu finir la boucle là, de ce projet-là. Puis qui est un peu un projet un petit peu bittersweet pour moi. Là, parce que puis il est pas c'est comme des propos pas tant nice, cet album-là, pour moi. Fait que j'avais juste hâte de... sortir, d'arrêter d'en parler.
Il faut qu'il soit derrière toi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que tu as d'autres questions? Parce que moi, j'aurais juste envie de vous poser pour clore. Là, vous avez fait quand même pas mal le show. Vous avez deux formules. La formule en ouverture à Show Sauvage, puis là, votre formule plus expérimentale. Qu'est-ce qui s'en vient, outre le mystère d'un deuxième album qu'on laisse planer? Mais y a-t-il des affaires qui sont... sur votre radar pour les prochains mois qui vous enthousiasme en particulier ou
ouais ben on a d'autres surprises mais
qui vont rester des kids de surprise.
On aime ça être un peu mystérieux que ça soit comme ça arrive un peu quand le monde s'attend pas mais non mais c'est sûr que là en gros c'est vraiment d'essayer de clore la genre de tournée True OAEIE puis
à l'idée... dire avec lenteur.
Ouais, sinon ça marche pas.
Faut que tu y penses à ce que tu es en train de dire.
Ouais.
Mais là, ça vient d'où ce nom? Ce
ça,
nom.
C'est un autre mystère. Il n'y a personne qui a trouvé, mais c'est pas si compliqué en plus.
Ça se trouve facilement.
OK. Ouais. OK.
Mais c'est ça, l'enfant. On va essayer de clore ça. Il nous reste une couple de soirées encore avec ce spectacle-là. Puis l'idée, c'est vraiment de s'asseoir en studio puis de faire le ménage là-dedans. Là, tu sais, au nombre de shows qu'on va avoir comme 5 heures de musique à démêler. Là, fait que c'est vraiment ça qui va se passer là, à l'automne. Là.
OK. Trouver les pépites dans ce que vous avez. En fait, ouais. Vous avez été en espèce de résidence pendant plusieurs mois. Ben, puis là, c'est de faire... C'est qu'est-ce qui a émergé de ça?
De monter les tunes, tu sais, faire les chansons, vraiment plus chansons, mettre les voix, les refs, mm-hmm. Faire la même. Puis on va soit prendre, même, tu sais, on enregistre tous ces sets-là, puis on peut tout reprendre, fait que ça soit à partir de show live ou pas. Fait que c'est vraiment juste de monter tout ça qui va venir, puis après ça, le vinyle.
la deuxième galette. Ouais. Ben merci énormément pour votre temps, la générosité de vos questions.
Plaisir,
puis on vous souhaite un super beau set avec du weird le fun. Que du weird le fun tantôt. Merci.
Est-ce que c'est à ce qu'on s'attend pour asseoir? Du weird le fun. Weird
ouais, fun. Ouais, du weird le fun. Okay. Toi, tu veux dire quelque chose? Ouais.
Non. Merci.
Cool. Yeah. Hey, merci les gars.
Merci.
Vous êtes toujours à Chérie, j'arrive sur les ondes de 94.3 et entre-temps, pendant qu'on écoutait Totalement Sublime qui nous parlait de leur projet, de leur show, des mystères à venir, de tout ça, il y a Alex Tremblay-Lamarche qui s'est joint à moi en studio pour une chronique éclair. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va parler de deux ouvrages particulièrement intéressants qui traitent à la fois de les rouages de la Cour suprême, historiquement aussi, qu'est-ce qui peut
la
être...
Cour fédérale.
La Cour fédérale, hey, pardon. Ouais, j'ai en tête tout ce qui se passe du côté des États-Unis ouais. ces temps-ci, qui est un petit peu la genèse de pourquoi on veut parler de tout ça aujourd'hui. Et aussi d'un autre ouvrage qui s'appelle « L'histoire du consentement ».
Oui, effectivement, ce sont deux ouvrages dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, un petit peu en marge de Roe contre Wade, pour voir c'est quoi l'impact que peut avoir une cour sur le destin d'un pays et sur les gens qui l'habitent. Parce que comme on l'a vu aux États-Unis, Roe contre Wade, ça change beaucoup de choses. La Cour fédérale au Québec, ben en fait au Canada plutôt, a également changé beaucoup de choses dans l'histoire du pays. Et le lapsus que tu as eu de Cour suprême est quand même assez intéressant. Parce que pour remonter aux origines de la Cour fédérale, il faut remonter en 1875, date à laquelle on crée deux cours, l'ancêtre de la Cour fédérale, la Cour de l'Échiquier et la Cour suprême du Canada. Donc, c'est un petit peu la sœur ou le frère, on peut le voir comme on veut, de la Cour suprême du Canada. Et la Cour de l'Échiquier, elle avait été fondée pourquoi? Pour traiter un petit peu des questions de droit fédéral, donc ce qui ne s'appliquait pas nécessairement dans les cours provinciales. Finalement, il va évoluer en 1971 pour devenir la Cour fédérale. Et en 2021, on a eu envie de faire un ouvrage pour célébrer les 50 ans de cette cour-là. Et c'est ce qui nous donne cet ouvrage, Cour d'appel fédérale et Cour fédérale, 50 ans d'histoire, parce qu'elle s'est scindée en deux, une Cour d'appel et la Cour fédérale. De quoi est-ce que cette cour-là... traite, ben comme je mentionnais, bon, il traite notamment bon de droit de l'environnement, de droit des contrats, de la propriété intellectuelle, des services fédéraux, et bon ben lorsqu'elle traite aussi effectivement des questions autochtones, et elle a eu un impact quand même assez significatif, notamment dans les années 1970, lorsqu'il va avoir la cause Lavelle Reference, qui est une cause qui va opposer une Anishinaabe. À Jeannette Lorbière Lavelle, qui avait perdu effectivement son statut d'autochtone parce qu'elle avait épousé un homme blanc. Et donc, la loi à l'époque prévoyait que si une femme, si un homme épouse un homme autochtone épouse une femme non autochtone, il garde son statut, les enfants aussi. Mais quand c'était une femme, ben, c'était pas le cas. Mm-hmm. Et la Cour fédérale a été amenée à se pencher là-dessus. Elle a donné raison à Mme Lavelle en disant que c'était une loi qui était sexiste. Mais par la suite, ça a été renversé en Cour suprême. Mais bon, ça va tabler effectivement la voie à la Charte des droits et libertés de 1982. Donc, on voit que les cours peuvent avoir un impact significatif et c'est ce que nous montre cet ouvrage sur la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale.
Puis la raison pourquoi tu voulais venir nous parler de cet ouvrage-là aujourd'hui, c'était... un petit peu
à cause du débat entourant les droits ou maintenant les droits renversés à l'avortement aux États-Unis. Puis tu voulais nous parler un petit peu de c'est ça l'espèce d'impact là, que on se sent très proche des États-Unis. On n'a pas le même système qu'eux autres, mais l'influence que possiblement des fois certaines décisions ou certaines structures politiques peuvent avoir sur nous de ce côté-ci de la frontière. Donc est-ce que il y a quelque chose dans cet ouvrage-là que tu as relevé comme étant intéressant à ce sujet-là?
Oui, il y a différents éléments, comme il y a un chapitre sur l'évolution du personnel de la Cour, donc les juges, et ben, ce qu'on peut voir, c'est que ce ne sont pas des nominations politiques comme aux États-Unis, mais ce sont plutôt des nominations qui sont politiques aussi. On voit souvent, effectivement, des fois, la nomination des juges fédéraux, c'est souvent effectivement des gens proches d'un parti ou de l'autre, mais lorsqu'ils rendent leur jugement, c'est difficile de discerner un juge qui a été nommé par un libéral ou par un conservateur. Mmh. Alors qu'aux États-Unis, on voit clairement des tendances très, très fortes depuis quelques années. C'était moins le cas avant. Roe contre Wade, ça a été en partie voté par des juges nommés par des républicains et certaines des avancées libérales sur les droits des homosexuels, la contraception ont aussi été votées en grande partie par des juges républicains. Mais au Canada, on voit moins ça. Et cet ouvrage-là, effectivement, Cour d'appel fédéral et Cour fédérale 50 ans d'histoire, publié aux presses de l'Université de Montréal, nous permet de voir l'évolution de la Cour et les différents dossiers sur lesquels elle a eu de l'importance. Donc, comme je mentionnais, droit de l'environnement, droit autochtone, le droit d'auteur, tout ce qui est effectivement un petit peu plus administratif. Et de voir aussi que les femmes y prennent de plus en plus de place et que c'est une Cour qui va avoir de l'impact sur le droit de l'immigration et le destin, effectivement, du Canada de ce côté-là.
Mm-hmm. Puis parlant de droit, parlant de la place des femmes au sein de ces institutions-là, ton deuxième ouvrage nous parle de l'historique du consentement au Canada. C'est qui donc l'auteur, si tu peux me
Maëlle Bernard, et ça ne parle pas du consentement au Canada, mais ça en parle de manière plus large. Je dirais que c'est principalement dans le monde occidental. Mm-hmm. Du silence des siècles à l'âge de rupture, c'est le sous-titre de l'ouvrage, et je vous dirais que c'est pas chic-chic. Mm-hmm. Ce dont on se rend compte, c'est que le consentement, c'est quelque chose de relativement récent. Jusqu'en 1981, un viol, c'était seulement lorsqu'il y avait pénétration. Donc, tout autre acte sexuel, c'était pas nécessairement un viol. 1992, pour que le viol conjugal soit reconnu. Avant, si tu t'étais marié avec quelqu'un, t'acceptais d'avoir les relations sexuelles que cette personne-là voulait lors du mariage. Mm-hmm. Donc, on voit que c'est quand même assez récent, mais lorsqu'on recule encore plus loin dans le passé, on se rend compte qu'il y a encore plus matière à être inquiet. Dans l'Antiquité, c'est simple, le viol n'existe pas. Il y a deux choses qui existent lorsqu'on s'en prend aux femmes. Il y a le rapt, ça c'est quand il n'y a pas le consentement du père, et il y a l'adultère, ça c'est quand il n'y a pas le consentement du mari.
Oui, donc on voit que la principale concernée n'est pas très concernée dans les décisions.
Exact. Ouais. Donc, c'est pendant longtemps, la notion de viol, c'est une atteinte, effectivement, à, je ne dirais pas la possession d'un homme, mais je dirais à quelque chose qui s'apparente à ça. Longtemps, le viol aussi était une arme de guerre. Il se l'a encore, malheureusement, aujourd'hui, mais au Moyen Âge, il y a une volonté, effectivement, de châtier l'ennemi en violant ses femmes. Donc, c'est ça, il y a quand même une grande violence, effectivement, puis on en est conscient et on l'utilise comme ça. Petit à petit, les choses vont s'améliorer, notamment, 18e siècle, 19e, il commence à avoir des procès pour viol. On commence, effectivement, à prendre en considération la femme, mais au départ, un viol, ça se passe dans une ruelle sombre où, effectivement, la femme va crier, elle ne connaît pas son agresseur, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. L'état de sidération, donc le fait qu'une victime ne crie pas, va être reconnu seulement à partir de 1881. Mm-hmm. Avant, on considérait notamment qu'un viol ne pouvait pas se produire en ville parce que si ça avait eu à se produire, on s'en serait rendu compte parce que la femme se serait débattue. Mm-hmm. Et on l'aurait entendu. Donc, c'est quand même effectivement assez fascinant de voir l'évolution qu'il y a eu autour de ça et de voir à quel point, effectivement, selon les époques, les perceptions changent. Et c'est assez bien écrit, très accessible, des chapitres courts. Donc, je vous le recommande. Histoire du consentement féminin, du silence des siècles à l'âge de la rupture de Maëlle Bernard pour en savoir plus sur cette question.
Merci, Alex, d'être venu nous parler en vitesse de ces deux œuvres qui sont à appréhender avec patience et pas en vitesse comme on l'a fait. Mais on sentait que c'était quand même important de pouvoir en parler. Merci beaucoup. Puis, c'est ce qui close notre émission de la journée avec notre cher Alex et Gabriel Tremblay qui était à la mise en onde. Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était une émission rétrospective de notre temps au Bleu Bleu, spécifiquement avec Jerusalem in My Heart, Lauren alias Lauren Spear et Totalement Sublime qu'on a pu entendre en entrevue. Il était question de leur projet, de leur spectacle, de leur plan de tournée. Donc, on a eu aussi droit à la très belle chanson Diane de Lauren pour ouvrir l'émission et Totalement Sublime avec I Don't Know ou IDK pour les gens qui sont pas familiers avec l'abréviation. Ensuite, on a eu Alex qui est venu nous parler trop brièvement, mais quand même avec concision et efficacité de deux ouvrages, donc un sur la Cour fédérale et le lien qui peut être créé entre les droits humains qui sont... Pardon, mon Dieu, je m'enfarge en mes mots, mais la Cour fédérale, en fait, au Canada et l'influence de possiblement la Cour suprême aussi, 50 ans d'histoire sur la Cour d'appel fédérale et Cour fédérale. On a aussi eu droit à un petit survol de Histoire du consentement féminin, un livre en court chapitre sur cette notion-là qui est vraiment pas acquise aujourd'hui et qui continue à être problématique pour certains. On a envie de vous dire, embarquez donc dans le bateau qu'on arrive. Puis, on a Andréane Desmeules qui est à la noce en fin de semaine, qui